Bienvenue dans l'émission Fréquence follement curieuse. Nous sommes un collectif d'usagers de la psychiatrie qui réfléchissent ensemble sur les troubles psy, leur prise en charge et le regard porté sur nous. L'émission du jour est un premier volume sur le thème des addictions. Aujourd'hui, je commencerai par définir des notions autour de l'addiction avec un point de vue plutôt médical, tout en soulevant plusieurs interrogations. Puis, nous aurons le plaisir de discuter avec Valérie et de son parcours avec l'alcoolodépendance, l'association dans laquelle elle fait partie, les Amis de la Santé. Yann proposera ensuite une critique engagée sur le rôle que joue notre société sur les addictions. Et enfin, Anne-Pauline développera l'impact du capitalisme et des nouvelles technologies sur nos modes de consommation. Les amis, vous pouvez vous présenter ?
Moi, c'est Anne-Pauline, je suis artiste-auteur et usagère en santé mentale.
Alors Yann, je suis blogueur-journaliste et mes articles sont publiés sur le site infopsyrène.org.
Bonjour, Valérie, présidente des Amis de la Santé d'Ille-et-Vilaine.
Enchantée, et du coup, moi, Béryl, usagère en psychiatrie. Du coup, pour commencer, c'est quoi une addiction ? Le Robert nous parle de dépendance très forte, entre parenthèses à une substance nocive, entraînant une conduite compulsive. Mais cette définition est assez limitée. Si on se penche du côté de la psychiatrie, le DSM, soit le manuel qui classifie les maladies mentales, alias la Bible des psychiatres, comporte 11 critères diagnostiques. Il ajoute des notions comme une perte de contrôle sur la quantité et le temps, ou beaucoup de temps consacré, je cite, à la substance ou au jeu. Des difficultés comme une incapacité de remplir des obligations importantes, reste à savoir ce qui est important ou non, ça me paraît ambigu, et des problèmes personnels ou sociaux. Au niveau chimique, une augmentation de la tolérance aux produits addictifs, mais aussi psychologique, désir ou effort persistant pour diminuer les doses ou l'activité. Ce qui est intéressant dans la définition de l'addiction donnée par le DSM, que vous pouvez d'ailleurs consulter dans son intégralité sur Internet, c'est que suivant le nombre de critères remplis, on peut évaluer le degré d'addiction. De 2 à 3 critères, on parle d'addiction faible et à plus de 6, de sévère. Pour poursuivre mes recherches sur l'addiction, je me suis appuyée sur l'aide-mémoire Addictologie, regroupant le travail de chercheurs, chercheuses, sous la direction d'Alain Morel, psychiatre, et de Jean-Pierre Coutron, psychologue clinicien. Addictologie est parue en 2019 aux éditions du Nod. Reprenons maintenant un élément récurrent dans les définitions, le concept de substance. Je vais commencer par les catégoriser, suivant leur incidence sur le cerveau, en reprenant le modèle des psychiatres Deley et Denecker, que j'ai trouvé dans le chapitre 4 de l'ouvrage Addictologie. Il y a les produits dits dépresseurs, comme l'alcool ou les benzodiazépines, la kétamine par exemple, qui sédatent le cerveau et diminuent les capacités, pouvant provoquer de la détente. Les stimulants, qui stimulent le système nerveux et peuvent donner de l'énergie, comme la cocaïne, la caféine ou le poppers. Alain Morel évoque aussi l'importance de l'effet placebo, soit l'effet que l'on imagine que la drogue va produire, qui peut jouer sur les effets ressentis. On a pu voir que chaque produit a une fonction différente pour le cerveau, avec ses histoires de dépresseurs, de stimulants, de perturbateurs. Mais qu'en est-il de sa fonction pour la personne qui consomme ?
Ce soir, je vais m'anesthésier, m'enfermer et m'enfumer. Ce soir, je vais m'anesthésier. J'aimerais goûter l'éternité.
Party.
J'ai un poteau qui weed, un poteau qui drink, un poteau qui casino, un poteau qui lean, un poteau qui Tinder, un poteau qui rock moi, un poteau qui Piper. À chacun son soma. Ce soir, je vais m'anesthésier. J'aimerais connaître l'éternité. Ce soir, je vais m'anesthésier. Pour ça, je vais m'abîmer. J'ai perdu beaucoup d'amis. Et ça fait des années. Les cheveux sont très lissés, mais eux se sont dégradés. Pourtant, je suis pas mieux qu'un autre. Mes démons, moi aussi. Nos parents disaient la même chose. Cette époque, c'est pas possible. Hors liquide ou fumée verte, c'est
table en verre. Les belles années payent l'addition. On fait tous comme Mario Bros. On cherche des passages secrets. Mais est-ce qu'on ouvre pas des portes vers de futurs grands regrets? Ce soir je vais m'anesthésier. J'aimerais connaître l'éternité. Ce soir je vais m'anesthésier. Pour ça je vais m'imbiber. Soma, il me faut mon soma. Chacun son soma. Je suis bien sous soma. Soma, soma, soma. Ton cœur est gros comme la grande roue sur la place de la Concorde. T'es en montée, t'es en triomphe, t'es en descente, t'es en défense. Les addictions s'additionnent. Toxicomane numérique, accro à ton téléphone. Tu es devenu iPhonique. On fait tous comme Mario Bros. On recherche des passages secrets. Mais est-ce qu'on n'ouvre pas des portes vers de futurs grands regrets? Soma, il me faut mon soma. Chacun son soma. Je suis bien sous soma. Soma, soma, soma. Ce soir je vais m'anesthésier,
m'enfermer et m'enfumer.
Ce soir je vais m'anesthésier.
J'aimerais goûter l'éternité.
Body's going, body's going. Quel goût à l'éternité. J'ai vraiment trop mal au cœur. Je fais que culpabiliser. J'aimerais m'arracher le cœur. Il faut le cautériser. Sinon il va pas repousser. Tu n'es pas Satan, petit cœur.
Commençons par le potentiel hédonique. C'est consommer pour être plus créatif ou dépasser le sentiment d'ego, mais surtout ressentir de la béatitude, du relâchement ou du plaisir. Cette fonction est fortement influencée par le système de récompense du cerveau, c'est-à-dire tu consommes, tu as un shot de dopamine, tu te sens bien, donc tu reconsommes. Il y a aussi le potentiel social. Consommer pour être plus sociable, plus extraverti, pour s'inclure à une fête ou à un groupe qui a pour norme d'utiliser tel ou tel produit, comme l'alcool dans certaines fêtes d'entreprise par exemple. Pour finir, parlons du potentiel thérapeutique, soit consommer pour calmer une tension interne, s'autoréguler, s'euphoriser, s'apaiser, ne plus penser, etc.
Le métro ferme à 1h du mat, le métro ouvre à 6h du mat, Monoprix ouvre à 10h. Monoprix ferme à 20h. Les enfants partent à 8h. Les enfants reviennent à 16h. Le repas commence à 20h. On débarrasse à 20h30. Je suis borderline. T'es borderline. Il est borderline. Nous sommes borderline. La dame du troisième sort à 10h. La dame du troisième revient à 11h. Les acédiques couvrent à 9h. Les acédiques ferment à 16h. Tu commences le boulot à 9h. Tu termines le boulot à 18h. Tu t'endors à 23h. Tu te réveilles à 7h du mat. T'es borderline. J'suis borderline. Il est borderline. Nous sommes borderline. Le feu vert s'allume à minuit. Le feu rouge à minuit 2. Le feu vert revient à minuit 2. Le feu rouge à minuit 4. La dame du troisième sort à 21h. La dame du troisième revient à 21h30. L'ascenseur descend à 21h30. Remonte à 21h31. Je suis borderline. T'es borderline. Il est borderline. Nous sommes borderline.
Ok, d'accord, très bien.
À midi 16, un cri à 15h07, une voix d'homme à 22h, un chat à 1h, une radio à 2h20, une Mercedes à 5h du mat. Tout va bien, tout va bien,
tout va bien,
cadre plus particulier du milieu professionnel, d'ailleurs sur lequel Yann, en fin d'émission, va pousser un sacré coup de gueule.
Ben oui, en fait, marre de prendre des pilules pour se lever et dormir et de prendre le métro dans la meute, que le chèque à la fin du mois, la télé, le canapé.
T'en as beaucoup à dire, Yann, mais attends, ouais. Un peu.
Le sociologue Alain Rimberg a proposé en 1995 de classer les consommations des travailleurs en trois types. Le trou noir, ou shoot, la sociabilité, ou le dopage, soit le joint ou le fixe, avant le travail. On retrouve ici nos potentiels hédoniques, social et thérapeutique, en quelque sorte. Au boulot, justement, récemment, Dominique Pénaud-Fonbonne, Corinne Dano, toutes deux médecins du travail, et Pascaline Ernoux, psychologue, ont proposé une classification pour organiser l'origine des usages. Les consommations d'importation, soit quand dans ta vie privée tu prends un truc et que tu l'importes dans ta vie pro, celle d'acquisition, soit par exemple quand ce jeune start-upper acquiert l'usage quotidien de la cocaïne à cause de son milieu pro, et celle de renforcement, celle où par exemple tu prends de la cocaïne à l'origine et c'est normalisé d'en consommer là où tu bosses. On a vu quelles sont les pistes qui peuvent expliquer la consommation. Maintenant, quelles sont celles pour essayer d'identifier les aspects négatifs des produits ? Le cube des profils pharmacologiques de dangerosité, qui recense les travaux de plusieurs chercheurs dont Alain Morel, propose des réponses. Des produits comme la cocaïne ou le cannabis gravitent au cœur de ce cube. C'est vraiment un cube en quatre dimensions, pour que vous puissiez l'imaginer. Il comporte trois axes : la dépendance, la toxicité et l'intensité. La dépendance ici, c'est le potentiel qu'a le produit à jouer avec le système de récompense du cerveau. Puis l'axe de la toxicité, lui, montre l'impact négatif sur l'organisme au niveau cellulaire. Ce qui définit l'intensité dans le cube, ce sont les perturbations sur l'humeur, les perceptions, la motivation, etc., engendrées par chaque produit. Le cube de dangerosité montre que, par exemple, l'alcool, qui est autorisé par la loi, est élevé par rapport aux trois axes. Ce cube des profils pharmacologiques de dangerosité, tout comme le cube des profils de satisfaction recherchés, qui m'ont aidé à comprendre les potentiels ainsi que les dangers des substances, sont des outils très pratiques de prévention. Ils sont par exemple matérialisés dans le cadre d'ateliers par l'association Opelia, association venant proposer une aide aux consommateurs, consommatrices et à leur entourage. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces cubes sur leur site et les imprimer sous forme d'outils de prévention. Si je reprends la définition initiale ainsi que les fonctions de la consommation et l'évaluation de sa dangerosité, on pourrait se dire que les addictions comportementales comme celles aux réseaux sociaux correspondent. Pour autant, les chercheurs, les chercheuses sont en questionnement sur le sujet et seules les addictions aux jeux d'argent et aux jeux vidéo sont reconnues dans les manuels diagnostiques. Cependant, qu'en est-il des personnes boulimiques qui pratiquent à outrance le sport, des personnes dépressives qui scrollent jour et nuit sur TikTok, ce qui aspire tout intérêt pour le reste, des donjuans modernes qui sont prêts à tout pour trouver un ou une partenaire, peu importe les risques et le temps passé sur Tinder.
Life is hard, and so am I. You better give me something. So I don't die.
Move the cave for the storm. Before I sputter out. Before I sputter out. Life is white, and I am black. Jesus and his lawyer. We'll be right back.
give me something to fill the hole before I sputter out. Before I sputter out. Before I sputter out.
On pourrait aussi se demander si l'ado dépressif qui scrolle sur TikTok est en dépression parce qu'il utilise TikTok, ou si c'est la dépression qui l'a amené vers une consommation excessive de TikTok. Pareil, est-ce que cet ami qui a eu un diagnostic de schizophrénie après avoir consommé du cannabis était déjà atteint de schizophrénie avant, ou est-ce que c'est le cannabis qui l'aurait d'une façon ou d'une autre rendu schizophrène ? En fait, c'est la question de l'œuf ou de la poule. Est-ce que les personnes qui deviennent addictes souffrent déjà de troubles psy ? Est-ce que les drogues engendrent des troubles psy autres que l'addiction ? Toutes les éventualités sont possibles en fait. Il n'y a pas d'affirmation. Beaucoup de personnes souffrant de troubles psy consomment, pour des raisons diverses. Et 29% d'entre elles présentent, au cours de leur vie, un problème d'alcool ou d'autres drogues, soit près de deux fois le taux de la population sans troubles psy. Ce chiffre provient d'études réalisées aux États-Unis par le SAMHSA, le Substance Abuse and Mental Health Service Administration, en 2011 et 2014. La drogue permet à certaines d'entre elles de maintenir un équilibre précaire et de, en quelque sorte, contenir leurs symptômes. D'autres personnes développent des pathologies liées à leur pratique addictive ou par contact avec un produit dit perturbateur. Le cannabis, le LSD, les champis par exemple. D'autres sont diagnostiqués après une consommation qui a aggravé et donc dévoilé leurs symptômes. Et d'autres peuvent consommer sans être addicts. Bref, les chercheurs, chercheuses n'ont pas l'air d'être au clair et c'est plutôt difficilement quantifiable, les infos, pour séparer l'œuf de la poule. Après tout ça, ce que je comprends, c'est que ce qui fait qu'une drogue est une drogue, c'est le contexte d'usage. Un anxieux qui prend des médicaments prescrits légalement pour calmer son anxiété, en respectant les dosages de son ordonnance, n'est pas considéré comme drogué par la société. Ce qui fait drogue, ce serait la dose, le contexte, la répétition et l'impact négatif de la consommation sur la vie du concerné. Je me demande, par exemple, si un psychiatre qui prescrit sur du très long terme de fortes doses de benzodiazépines sans questionner les bénéfices réels du produit serait pas un peu un dealer légal. D'après ce que j'ai lu, je vais quand même suivre le point de vue médical. Pour moi, l'addiction est une maladie. Ce point de vue me conforte dans l'idée qu'on peut s'en rétablir et que des solutions existent pour vivre avec. Que soit l'abstinence totale ou la réduction des risques, la poterie, le sport, l'entraide, le champ des possibles est ouvert, même s'il serait plus accessible avec moins de stigmatisation, d'oppression, de société, de consommation justement. Justement, ce serait pas mal.
Mais Beryl, toutes ces addictions, tu crois vraiment qu'elles se valent toutes ?
Bah, tu peux te référer au cube des dangerosités pour approfondir ta question au sujet des substances.
Oui, mais Beryl, en fait, ce que tu nous dis là, en fait, c'est du relativisme culturel. Ça veut dire que tout se vaut.
Yann, je pense pas qu'une addiction soit plus dangereuse qu'une autre. Pour moi, ce sont les façons d'user du produit ou du comportement. Mais surtout, surtout, pour moi, mesurer la gravité d'une addiction, ce serait mesurer l'intensité de la souffrance de la personne qui consomme. Ce qui est, je pense qu'on est d'accord, difficilement quantifiable.
Faut bien que je te quitte. Je suis trop vieux pour tes jeux. Qu'est-ce que tu veux ? On s'est trop aimé, trop haï. Ce que tu m'as donné, tu ne me l'avais que prêté. J'ai été invincible, tonitruant, défenseur de la pureté des dames. Tu me diras, ça t'arrangeait bien. Tu pouvais me garder plus longtemps, jusqu'au petit matin souvent. À 20 ans, on veut mourir. Et à presque 40, on veut rester. Tu te trouvera bien. Un fou avec mes yeux qui t'aimera. Un désemparé que tu pourras chérir. Quelques témoins du temps passé se souviendront bien du jeune homme trébuchant et de notre histoire d'amour. Je ne t'ai jamais vu par ennui. Je t'ai toujours vu par passion. Pour être d'un bon, tout méchant ou tout bon. 20 ans de vie commune, au coucher, au réveil, tes coups derrière la tête, et puis tous ces animaux bizarres que tu élèves chez toi, ces singes grimaçants, ces perroquets dont le bec dégouline de cervelle humaine, tous ces serpents aux yeux d'effroi et au corps affreusement glacé. Aux oiseaux multicolores, aux filles nuelles, tant que je ne buvais qu'entre leurs seins, je ne dis pas. C'est vrai que grâce à toi, j'ai eu des femmes que je ne méritais pas. C'est vrai que je connais tous les bars de la ville et d'autres encore. C'est vrai que j'ai parlé à Dieu et qu'on ne s'entend pas du tout même. Tout est vrai, je ne renie rien. Mais la brise est débranchée, impossible de souffler dans l'harmonica. Je ne veux plus coucher avec toi, au prix de ma vie. Je ne veux plus que tu sois princesse. Tu n'es qu'une sorcière au sein gris. Ton ventre si blanc dans le temps n'est plus qu'un marais infâme où des crabes et des crapauds s'entretuent. Je ne veux plus. Les ressorts de mon crâne s'éparpillent au hasard des bars et que les clowns, éblouis par la foule, saluent leur gloire flétrie. Ah, ma belle fleur vénéneuse, tu complotes avec la folie, tu complotes trop. J'aime les femmes dont les yeux s'étonnent que les oiseaux s'envolent.
Vous êtes bien dans l'émission Fréquence follement curieuse. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'émission en intégralité sur le site de Canal B. Nous venons d'écouter un extrait d'Alcool de Richard Bohringer. Comme vous pouvez l'avoir deviné, le thème de l'émission d'aujourd'hui est l'addiction. Et je vais maintenant laisser la parole à Valérie pour qu'elle nous raconte son parcours avec l'alcoolodépendance. Yann, je crois que tu as préparé des questions. Je te laisse commencer.
Voilà, alors Valérie, peux-tu te présenter ?
Donc, je m'appelle Valérie Ruellan, je suis présidente de l'association Les Amis de la Santé d'Ille-et-Vilaine, une association d'entraide pour les personnes en difficulté avec l'alcool et leur entourage, et également patiente experte certifiée par France Patient Expert Addiction.
Très bien, merci. Alors Valérie, comment tu définirais la maladie alcoolique ?
Ça a été très bien présenté dans l'introduction. C'est là vraiment là pour moi perdre la liberté de s'abstenir. Le professeur Carilla parle des 5 C. C'est un moyen mnémotechnique que je trouve sympa. Le contrôle, perdre la perte de contrôle. C'est comme consommation, cette envie irrépressible de consommer. La compulsion, l'activité compulsive qu'on peut avoir avec le produit continue. C'est-à-dire avoir un usage continu, et les conséquences, usage continu malgré les conséquences négatives.
Et toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ton problème avec l'alcool ?
Moi, je ne le savais pas, et je ne voulais pas le savoir, je pense inconsciemment. J'ai d'abord été traitée pour dépression, et c'est grâce à la psychiatre qui m'a amenée à combattre ce déni qui m'a longtemps poursuivi et commencer un parcours de soins.
Est-ce que tu t'es sentie stigmatisée ?
Pas vraiment, grâce à l'association. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec des personnes qui avaient connu le même problème et où on pouvait en parler librement. C'est un fait que je n'en ai pas parlé dans un premier temps dans l'entourage proche et même un peu plus lointain.
D'accord. Et pourquoi tu t'es tournée vers l'association ?
J'avais tout essayé. Et comme souvent le malade, il boit seul et dit qu'il va s'en sortir seul. Et las de toutes ces hospitalisations que j'ai pu avoir, avec un moral de plus en plus bas, j'ai vu des visiteurs hospitaliers lors d'une hospitalisation qui étaient abstinents et qui avaient le sourire. Pour moi, c'était complètement incompatible. Donc j'ai dit, je vais aller voir ce qu'ils proposent.
Alors, et qu'est-ce que l'association t'apporte ?
Justement, cette impression, tu sais, oui, je sais. Et ça, vraiment, on en a besoin de se sentir moins seul, compris, et dans une ambiance conviviale, bienveillante, sans jugement.
Justement, est-ce que tu peux nous présenter l'association ?
Oui, alors les Amis de la Santé, donc on est situé à la Maison Associative de la Santé, cette Square de Normandie, et on y propose donc des groupes de parole tous les mercredis soirs pour les personnes dépendantes, tous les 15 jours pour l'entourage. On propose également des permanences le samedi après-midi de 14h à 17h30. Et là, c'est plus informel. C'est bon, bien sûr, si on a un souci, on en parle. Mais c'est aussi pour bien montrer qu'on est une personne, on redevient un individu avec une maladie, qu'on n'est plus seulement le malade alcoolique. Et autrement, on propose beaucoup d'activités pour montrer que malgré un pays où la France, où l'alcool, pardon, est très présent, on peut s'amuser, vivre bien sans alcool.
D'accord. Et pourquoi vous avez développé ces activités, justement, ces sorties, tout ça ? Pourquoi vous avez...
L'alcool isole beaucoup. L'entourage peut aussi perdre patience. Donc, on se retrouve seul, parfois. Ou alors, on n'a pas envie forcément d'aborder le sujet avec sa famille. Donc, on se re-sociabilise, on devient membre d'une équipe et aussi, on voit qu'on a du plaisir à faire des choses qu'on avait l'habitude de faire avec le produit. Et qu'on peut aussi travailler sur nos émotions et partager des choses positives surtout. Je crois qu'on a été tellement... critiqué par la société, qu'on a besoin de reprendre confiance en soi.
Et est-ce que vous faites de la prévention ?
Oui, on en fait parce qu'effectivement, les consommations sont souvent précoces. Et donc, on va dans les collèges, les lycées, les CFA. On fait aussi des interventions en collaboration avec la Maison Associative de la Santé, à la fête de la musique, dans des festivals. Essayer de déstigmatiser justement le problème et montrer qu'une société où l'alcool est trop présent peut influencer nos jeunes enfants.
Et en matière de maladies alcooliques, quelles sont les prises en charge à Rennes ?
Alors, justement, c'est l'intérêt de l'association, c'est qu'on travaille en complémentarité avec les structures de soins. On a beaucoup de chance à Rennes pour ça. Il y a des hôpitaux ou cliniques qui permettent le sevrage, des centres de post-cure pour affirmer son abstinence, des centres également d'hôpital de jour, si on se sent encore fragile, et puis des associations diverses et variées qui justement permettent de répondre à la demande de chacun.
Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans la prise en charge de la personne ?
Que les médecins, les médecins addictos c'est plus facile, mais que les professionnels de santé d'une manière générale comprennent qu'il faut une complémentarité entre les différents professionnels, que ce soit les professionnels de santé, du médico-social, des patients experts ou des patients pairs, parce que ce n'est pas une maladie qui peut se soigner par une seule personne. C'est une maladie complexe qui fait appel à toute la personne et qui doit être prise en charge dans sa globalité.
Et peux-tu nous donner des ressources pour être aidé ?
Alors j'ai envie de dire, venez nous voir.
Oui.
La Maison Associative de la Santé propose un guide justement sur les associations possibles. Après, on peut penser que la porte d'entrée peut être différente pour chacun. C'est pas, il n'y a pas la bonne solution. Il y a la rencontre qui va faire qu'on va partir sur un accompagnement, à partir de là où est la personne et l'accompagner jusqu'à son mieux-être. Mais après, c'est une question de rencontre. Donc, ça peut être le médecin traitant, ça peut être l'assistante sociale, ça peut être un père qui soutient. Donc, il y a des ressources, mais elles peuvent être complètement différentes parce que ce qui est important, c'est d'être en confiance et de parcourir ensemble.
Et finalement, as-tu des conseils à nous donner ?
Alors, le conseil essentiel, c'est de ne pas rester seul. Je crois que dans tout problème, tout problème peut être beaucoup plus léger quand il est partagé. C'est un peu le but des permanences du samedi après-midi. On vient, on a un souci, on en parle, il est beaucoup plus léger. Poser son sac à un moment donné et ne pas hésiter à en parler. C'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas assez formés et qui ne sauront pas répondre et comprendre, mais ils pourront orienter. On a un réseau Ville-Hôpital 35 qui est maintenant intégré au Dactive, qui connaît tous ses partenaires. Donc, surtout, demander de l'aide.
Merci beaucoup, Valérie. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir insisté aussi sur le fait de pas rester seul et que effectivement les médecins devraient plus communiquer entre eux et devraient avoir plus de réseaux. Nous allons maintenant écouter un coup de gueule écrit par Yann sur l'influence de notre société capitaliste compétitive sur les addictions.
Dans la mode, je rêve de partir dans des pays où il fait chaud à l'autre bout du monde. Loin de ce boulot qui me tue, qui creuse ma tombe. Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Les jours se ressemblent et putain que c'est triste à mourir quand on n'a rien pour soi que le chèque de fin de mois. La télé, le canapé, le crédit à payer. Je fais les rires, je fais les lieux où on ne m'attend pas. Ce que je croise au fond des yeux n'en me voit pas. Je parle à des gens comme moi qui ont l'air de rien. Avant des olires qui n'en pensent pas moins. Je fais la mort, je fais la pierre, je fais celui qui existe. Mais dans l'ombre du miroir, je ne vois que du triste. Parano dans les rêves, putain, je parle seul. Toxico au pognon, je vais droit au cercueil. En or, s'il vous plaît, je voudrais qu'on m'inhume. Mais j'ai les moyens que de la fausse commune. Un jour, c'est vrai, je vais finir par me trouver un flingue. Et je descendrai dans la résidive. Je déclingue, ils me mettront au fond du trou. Une balle dans la tête. Pire que mon putain de quotidien. Je me lève et je prends des piles pour dormir. Je prends le métro dans la main. Je vais partir dans des pays où il fait chaud à l'autre bout du monde. Loin de ce boulot qui me tue, qui creuse ma tombe. J'ai des amis, j'ai des amours, je connais pas leur nom. On sort de tout ce gré d'étoiles, sur qu'on est pris dedans. Sur qu'on est rien de rien, que du vide, que du vent. Sur qu'on est rien, rien que des morts, que des morts vivants. Je rêve un jour de rencontrer les pays de Miami. Les stations s'enchaînent. Moi je sors à Vitry dans le couloir du métro, je crache sur les murs. Mais la nation me quête, mais la nation me quête. Je suis un homme mort coincé entre quatre murs. Je suis un homme moderne. Je me cogne la tête et j'essaie de m'enfuir. Mais le mirador quête, le mirador quête. Je sais qu'il me regarde en audio de satellite. Dans mes rêves d'Amérique, moi je tente de fuir. Le lendemain qui m'attend, le couteau dans le dos. Je sais bien au fond de moi même qu'ils peuvent me faire. Trois jours dans le métro, moi je suis le troupeau. Direction l'abattoir, quatre pattes sur le dos. Ils me mettront comme ils ont mis mes parents et les tiens. Pour qu'un putain d'actionnaire nage avec les dauphins. Je me lève et je prends des piles pour dormir. Je prends le métro dans la main, je rêve de partir. Dans des pays où il fait chaud à l'autre bout du monde. Moi c'est ce boulot qui me tue, qui creuse ma tombe. Je me lève et je prends des piles pour dormir. Les chaussures sont des putains qui s'est fait savourer.
Pour maman des antidépressions. Du Viagra pour les vieux, du calmant pour les enfants. Neuroleptique toujours, ce qu'on cherche le jour. Où nous verrons une lumière d'enfant de contre-jour. Que
société s'est perdue, nos amours se trouvent plus lisants. Du sommeil dans le cœur des métros de perdants. Tu conviendras le jour où nous retrouverons flamme. Ici tout est fini, Paris n'est plus Paris. Chez les gauchistes dans la droiture, chez les anards de mon pays, y'a que les télés qui s'allument et les filles qui disent oui.
Alors, que ce soit un produit ou que ce soit un comportement, l'addiction est toujours un asservissement. D'ailleurs, étymologiquement, addiction veut dire esclave. Mais n'oublions pas que le pire dans l'addiction, c'est la souffrance psychique qu'elle engendre. Douleur d'être en manque, douleur de ne plus pouvoir s'investir dans la vie sociale, et douleur tout court, c'est-à-dire dévastation de sa santé physique. Cirrhose, troubles cardiovasculaires, cancer, etc. Au-delà des vulnérabilités individuelles, des tempéraments et de l'histoire personnelle, les addictions nous parlent aussi de notre société. Son organisation, ses valeurs font que pour s'intégrer à elle, il faut payer un prix. C'est-à-dire qu'il faut s'approprier un certain sens du jeu qui est basé sur des luttes de domination. Mais dans cette société, c'est surtout les conditions de travail et les exigences économiques qui risquent de faire chuter la personne dans des addictions mortifères. En effet, l'économie de marché, de plus en plus dérégulée, pousse l'individu, en fait le travailleur, à devoir toujours plus atteindre des objectifs illimités. Clairement, le retour du libéralisme économique et l'avènement des nouvelles technologies, l'informatique, le numérique, Internet, ont construit une société qui célèbre en permanence le culte de la performance. Exaltation pour la compétition sportive, l'idéologie de la réussite individuelle, l'économie précaire, les réseaux sociaux et ses jugements permanents, combien ai-je de likes et de followers, ont facilité l'apparition d'un monde qui se voile la face car il exige des résultats humainement inatteignables. Pourtant, tout le monde joue le jeu des objectifs dans une mascarade généralisée. Et surtout, puisqu'il est impossible de réaliser des prouesses perpétuellement, beaucoup de travailleurs ont recours à des produits, non pas pour planer, mais pour se doper. Ainsi, comme l'a montré Jean-Pierre Coutron, psychologue clinicien, la société est de plus en plus addictogène. Dans le sens que, faute d'intégration et de contenant collectif, les personnes sont de plus en plus addictes. La fatigabilité semble avoir envahi nos vies. Que ce soit pour tenir dans le travail à la chaîne, assurer ses rendez-vous commerciaux ou encore pour rester éveillé devant ses élèves, les profs, partout le travail demande d'être stimulé. Dès lors, la consommation d'excitants augmente. Que ce soit la surconsommation de café, de sucre, le recours à l'alcoolisation ou plus grave, l'utilisation de la cocaïne. Bien sûr, il ne faut pas être caricatural et misérabiliste. Heureusement, encore beaucoup de gens sont heureux dans le travail. Ils sont dynamiques sans prendre de produits dopants. Mais si on inclut les psychotropes légaux, comme les antidépresseurs et les anxiolytiques, alors on constate que l'addiction à toutes sortes de produits devient le modèle dominant. Bien sûr, il faut relativiser. Il est moins grave de consommer trop de barres chocolatées que de prendre de la cocaïne. Heureusement que nos petites addictions ne débouche pas sur une maladie ou sur la perturbation importante de notre vie professionnelle et sociale. Il n'empêche, l'addiction pour tenir, pour garder son poste, pour obtenir des résultats, est le non-dit de notre mode de production capitaliste. Par exemple, l'alcool, qui existe depuis très longtemps dans notre culture, dans nos us et coutumes, est de moins en moins une communion festive, ritualisée, et de plus en plus une consommation solitaire. Tous ces propos veulent défendre une thèse. L'addiction est aussi un problème politique. En effet, nous ne sommes pas qu'une agrégation d'individus libres, autonomes, qui font des choix rationnels et où chacun est récompensé par son mérite. Non, une société vit en nous. Elle est façonnée par un modèle économique. L'accumulation de capital ou le capital va au capital fait que les êtres humains sont aussi des marchandises, même si ça s'appelle les ressources humaines. Dès lors, ils doivent être rentables. Dans une guerre de chacun contre tous, on prend des stimulants pour tenir et des calmants pour dormir. Même si la singularité de chaque être humain ne fait pas de nous de simples supports de structure, on peut analyser les phénomènes addictifs comme le triomphe d'un individualisme exacerbé où l'homme se sent tellement seul, livré à un dessein factice et désenchanté. Alors oui, les drogues peuvent aussi être un refuge à tant de vacuité. La consommation des diverses addictions a-t-elle augmenté ? Une question. On peut spéculer que oui, même si les statistiques manquent sur le sujet. En tout cas, il faut faire le lien entre addiction et l'être social. Sans vouloir une société parfaite, chimérique, la lutte contre les addictions ne doit pas être l'apanage de la psychiatrie et de l'addictologie. Elle doit aussi poser la question sociale et la lutte pour l'émancipation collective.
Merci Yann. Ce que nous venons d'écouter en écho à ton texte, c'est Pilule de 16. Le message est clair. Même si, bon, moi je te rejoins pas tout à fait sur l'histoire des barres chocolatées. Mais on peut pas.
Bon, il y a un débat là-dessus.
On peut pas être toujours d'accord.
Surtout.
Bref, maintenant, Anne-Pauline va nous parler des addictions liées aux nouvelles technologies. Et évidemment, un peu capitalisme aussi. Tu peux nous reparler définition ?
Oui, alors comme on l'a dit déjà, les addictions, c'est la consommation ou un comportement que l'on ne parvient plus à contrôler malgré les dommages qu'ils peuvent faire. Du latin addictus, le mot désigne une perte de liberté, le fait de devenir esclave de quelque chose. Il faut s'interroger sur le contexte sociétal et culturel, car aujourd'hui et depuis la fin du XXe siècle, on peut parler d'individualisme de masse, de fétichisme de la performance ou encore de culture addictogène, pour reprendre les mots de Patrick Farrow dans son livre « Le capitalisme addictif ». Comment faire face dans une société qui incite à consommer toujours plus sans alimenter des addictions ? On vous soumet à des tentations permanentes, à l'idée que vous pouvez tout avoir, au besoin de tout essayer. Dans cet environnement ultra incitatif que sont les médias, les réseaux sociaux, je voulais parler plus particulièrement de ce qu'on appelle le capitalisme attentionnel. Les plateformes de streaming représentent aujourd'hui une grosse partie de nos temps d'écran, et avec l'exemple du géant Netflix, on peut voir que des petites choses qui peuvent paraître anodines entretiennent notre dépendance. Le capitalisme attentionnel, c'est aussi l'hyper-rationalisation de la stimulation du désir. En effet, des spécialistes marketing évoluent sans cesse pour trouver des façons de plus en plus poussées de mobiliser cette stimulation du désir à des fins mercantiles. Ils agissent sur les mécanismes physiologiques du circuit de la récompense et la dopamine, sur l'ergonomie des plateformes, des sites internet, des applis qui sont conçues de manière à ce que l'on ait tout le temps envie de les manipuler et d'être hyper connecté. Les réactions positives sur les réseaux flattent l'ego et l'estime de soi. Ce sont des satisfactions rapides et intenses qui créent la dépendance. On sait aujourd'hui les dégâts que cela crée. Instagram est considéré comme le réseau social le plus dangereux pour la santé mentale d'après une étude. Il serait générateur de dépression et d'anxiété, car il encouragerait la comparaison, l'addiction au regard et au jugement de l'autre, et la dissimulation de notre vulnérabilité. On a entendu parler aussi du FOMO, acronyme de Fear of Missing Out, et le mot traduit l'anxiété qui pousse de nombreuses personnes à rester connectées en permanence pour ne pas risquer de manquer un événement ou une information dans le fil illimité d'un mur Facebook par exemple ou d'un feed Instagram. L'économie numérique repose sur l'injonction à la participation et l'extension de la présence des usagers sur les plateformes, explique Sophie GL, maîtresse de conférences à l'Université Paris 8 et chercheuse en sciences de l'information et de la communication.
Tout ça dans un objet, encore faut-il qu'il soit bien chargé. Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. Sans la haine, le stress, le faux mot, les dangers et tout ce qui me fait me sentir comme une merde ou presque. C'est fou de se dire qu'il y a tout ça dans un objet. J'écoute les notes en fois deux, mais quand j'en fais, ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire, je crois que je veux juste qu'on m'écoute. Je me demande comment faisaient les gens avant pour se donner rendez-vous. Moi j'ai besoin de checker 1000 fois mon écran pour être sûr de mon coup. quittes le vide, tu regardes 5 minutes. 2 heures plus tard, tes mains transpirent et t'as les yeux qui brûlent. T'as rencontré un tas d'amis que t'as jamais vu pour de vrai. Mais à l'heure où on donne tous notre avis sur tout, aujourd'hui qu'est-ce qui est vrai? T'écoutes les notes en x2, mais quand on fait ça dure 10 minutes. T'as pas tant de choses à dire, je crois que tu veux juste qu'on t'écoute. Tu te demandes comment faisaient les gens avant pour organiser un date. Toi tu zones des heures sans rien faire derrière l'écran, et puis tu te sens bête. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour est né danger, dans un objet. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Tu peux pas t'en empêcher, dans un objet. J'écoute les notes en x2, mais quand j'en fais ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire, je crois que je veux juste qu'on m'écoute. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. C'est pas ma faute, je culpabilise quand je regarde la vie des autres. Et si on détruisait ce qui tient dans nos mains, nous t'avions activé au moins jusqu'à demain. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour est né danger, dans un objet. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet.
Pour revenir au géant du stream Netflix, il faut lire l'essai passionnant de Romain Blondeau, Netflix, l'aliénation en série. Celui-ci met en lumière plein d'éléments qui permettent de comprendre les mécanismes à l'œuvre. La grande avancée que la plateforme propose en premier, début 2010 puis 2014 en France, c'est de nouveaux formats dans un modèle délinéarisé. C'est-à-dire que sont disponibles d'un bloc tous les épisodes d'une série. Fini les rendez-vous hebdomadaires avec nos séries préférées. Il s'agit d'une rupture franche avec les habitudes de consommation. Dorénavant, à portée de clic, tout est là, immédiatement, des dizaines d'heures de fiction. Selon les quelques génies du marketing qui ont théorisé ce modèle, il s'agissait d'un gain de liberté en faveur du consommateur. Le spectateur devient maître du temps. Visionner les contenus quand il veut, au rythme qu'il veut. C'est complètement acquis aujourd'hui comme comportement de spectateur, mais c'est important de le noter car c'est ce type de démarche qui donne naissance au binge-watching. Et Netflix en fait la nouvelle norme dès 2013. Le binge-watching, c'est le fait de regarder entre 2 et 6 épisodes en une séance. Un comportement de visionnage favorisé par une innovation technique spécifique. La plateforme a mis en place dans les paramètres par défaut des comptes clients un enchaînement automatique des épisodes, appelé post-play. C'est une prise en otage du spectateur. Juste quelques secondes du générique de fin, pas l'espace de digérer ce qu'on vient de voir. Difficile alors de parler de liberté quand il s'agit de retenir le spectateur, de saisir son regard et l'arrimer à la plateforme. En somme, l'aliéner. Reed Hastings, le PDG de Netflix, déclare en 2017 « Notre seul concurrent dans cette industrie, c'est le sommeil. » On était choqués d'entendre Patrick Lelay parler 10 ans plus tôt de temps de cerveau disponible. Preuve que nos usages ont changé, l'aliénation est permise. Et je cite Romain Blondeau qui dit « Fidèle à la religion du capitalisme attentionnel qui a fait de nos cerveaux l'or gris des temps modernes, une ressource dont il est possible de tirer profit via la revente de nos data et la publicité. Un spectateur qui pense est un mauvais consommateur pour les agents de l'économie du numérique qui ont substitué à l'ancien modèle celui du binge-watching et son rythme infernal. » Donc de spectateur agissant, on serait passé à spectateur passif dans un tunnel d'images, une amnésie de quelques heures, un tunnel qui abstrait tout le reste. Dans un fluide en écoulement perpétuel, et c'est l'art parfait du capitalisme attentionnel. Une forme mutante qui hybride le cinéma, la télé, la pub et les vidéos de flux internet dans un grand continuum d'images planes. Donc les assauts permanents du capitalisme attentionnel sur nos vies représentent plusieurs dangers, qu'on a d'ailleurs tendance à banaliser. Ce sont des atteintes au sommeil, à la mémoire, au langage, à la libido, etc.
Merci beaucoup Anne-Pauline de nous avoir parlé justement de capitalisme émotionnel. C'était pas ça le mot, c'est ça ?
Attentionnel.
Attentionnel. Merci beaucoup Anne-Pauline de nous avoir parlé du capitalisme attentionnel. Et j'ajouterais aussi que ce fameux PDG de Netflix, Reed Hastings, et la citation sur notre seul concurrent dans cette industrie, c'est le sommeil, est vraiment un personnage questionnable. Je voulais aussi remercier Yann pour toutes ses interventions et ses dénonciations au niveau de la performance et des conditions de travail, ainsi que Valérie, notre invitée. Merci beaucoup d'avoir eu la gentillesse de nous rencontrer et de répondre à nos questions. Est-ce que tu peux nous redonner les coordonnées des Amis de la Santé, s'il te plaît ?
Alors, les Amis de la Santé, donc, sont le siège social et 7 Square de Normandie, à Rennes. Et vous pouvez me joindre. Donc, je ne vais pas donner mon numéro comme ça en direct, peut-être. Mais vous pouvez taper sur Internet as35.fr et me joindre comme il vous ira, plutôt l'après-midi.
Merci beaucoup Valérie. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'émission ainsi que les précédentes sur le site de Canal B dans l'onglet Fréquences follement curieuses. On se retrouve le 16 février pour creuser encore le thème des addictions par le prisme de la sociologie et de l'anthropologie et puis peut-être d'autres surprises. Et surtout n'oublions pas, en ces temps compliqués, froids et confus, de prendre soin les uns des autres. À bientôt.